VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du lundi 20 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Alberton.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, annonce cette semaine du nom du Premier ministre du président Félix Tshisekedi et retour aujourd'hui de l'opposant Moïse Katumbi.
Le Conseil de sécurité de l'ONU menace de sanctions les auteurs d'attaques contre la MINUSMA après celle de samedi au Mali.
En Guinée-Bissau, le PAIGC insiste sur un gouvernement dirigé par Domingos Simões Pereira, limogé en 2015 par le président Mario Vage.
Le président américain Donald Trump avertit les Iraniens que si Téhéran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
C'est cette semaine que sera nommé le Premier ministre de la République démocratique du Congo, a annoncé le président Félix Tshisekedi, près de 4 mois après son accession au pouvoir. Ce futur chef du gouvernement sortira des rangs du Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila. Sa nomination a fait l'objet de nombreuses discussions entre M. Tshisekedi et son prédécesseur. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons la fumée blanche, rendez-vous la semaine prochaine, a dit le week-end dernier Félix Tshisekedi pour évoquer la nomination prochaine du Premier ministre aux 15 ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne accrédités à Kinshasa ainsi qu'à celui du Canada. C'était lors d'un déjeuner diplomatique institué par le président de la République dans le but, selon un communiqué, de promouvoir le rapprochement entre la RDC et ses partenaires. Ces derniers mois, Félix Tshisekedi a rencontré à plusieurs reprises l'ancien président de la République, Joseph Kabila pour avancer dans les discussions concernant la nomination du Premier ministre. Et après autant de rounds de discussions entre le chef de l'État et son prédécesseur, chef de la majorité parlementaire, après avoir recalé plusieurs noms lui proposés par le Front commun pour le Congo, Félix Tshisekedi semble avoir fini par accepter le profil d'une personnalité qu'il devrait nommer cette semaine, près de 4 mois après son avènement à la tête du pays. Devrait rapidement suivre la composition du gouvernement qui est également en discussion entre les proches de Tshisekedi et de Kabila. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En seconde partie de cette édition, vous pourrez entendre une interview exclusive de Raissa Girondin avec l'opposant Moïse Katumbi qui retourne aujourd'hui en RDC. La population se dirige déjà vers l'aéroport de Lubumbashi pour l'accueillir, nous signale notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Le Conseil de sécurité de l'ONU menace de sanctions les auteurs des attaques contre la MINUSMA après celle de samedi contre des véhicules de la Force de maintien de la paix des Nations Unies à Tombouctou et à Tessalit au Mali. Ces attaques ont coûté la vie en casque bleu nigérian et blessé plusieurs autres. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà averti que de telles attaques pouvaient s'apparenter à des crimes de guerre.
Au Mali même, fin de la grève des enseignants du public, le gouvernement et les syndicats de l'éducation nationale, dont la grève faisait planer le spectre d'une année blanche, ont signé un accord qui prévoit la reprise des cours dès ce lundi matin. Des détails avec Jacques Aristide.
Depuis plusieurs mois, les enseignants déclenchent des mots d'ordre de grève très suivis qui ont notamment entraîné des manifestations de professeurs et d'étudiants. L'accord en 10 points a été conclu au cours d'une rencontre avec le Premier ministre Boubou Cissé durant le week-end écoulé. Il prévoit notamment l'octroi aux enseignants d'une prime de logement et d'une prime de documentation. D'après le gouvernement, les parties sont notamment convenues de 20 000 francs CFA de majoration de l'indemnité de résidence. Pour le ministre du Travail, Oumar Madoun Diko, il n'y a ni perdant ni gagnant, c'est le Mali qui gagne, dit-il. Quant aux cheminots maliens de la voie ferrée Dakar-Bamako, ils ont repris le travail la semaine dernière, après presque 5 mois d'arrêt, dont un mouvement de grève de la faim pour le paiement de nombreux mois d'arriérés de salaire.
En Guinée-Bissau, le principal parti du pays a sommé hier le président José Mario Vaz de nommer un nouveau gouvernement dirigé par son chef Domingos Simões Pereira sous peine de manifestations de plus en plus importantes. Jean-Roger Bion.
Malgré le bon déroulement des législatives du 10 mars dernier remporté par le parti PAIGC, la Guinée-Bissau peine à sortir de la crise politique depuis le limogeage par M. Vaz il y a 4 ans. de M. Pereira, alors Premier ministre. La Cour suprême a rejeté récemment un recours de l'opposition parlementaire contre la composition du bureau de l'Assemblée nationale qui a transmis le 26 avril dernier au chef de l'État le nom de M. Pereira pour le poste de Premier ministre. Pour le président, cette nomination ne dépend pas uniquement de lui, mais aussi du peuple. Le PAIGC a réagi hier en menaçant de mobiliser ses partisans en nombre à 6 mois de la date proposée pour la présidentielle le 3 novembre. La crise entre Messieurs Vaz et Pereira, pourtant issus du même parti, inquiète la communauté internationale. Le pays a été secoué par des tentatives de putsch à répétition.
17 personnes, dont des Sud-Africains et des Égyptiens, ont été blessées dimanche dans une attaque à la bombe contre un bus de touristes près des célèbres pyramides de Gizeh, au sud-ouest du Caire. Un engin explosif a détonné au passage de l'autocar de tourisme qui circulait près du chantier du nouveau musée des antiquités égyptiennes, au pied des pyramides, selon une source de sécurité. L'attaque de dimanche intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en Égypte du 21 juin au 20 juillet.
Au Soudan voisin, les militaires et les chefs de la contestation reprendront ce soir les négociations marathon entamées la veille sur la composition d'un futur conseil souverain de transition, plus d'un mois après le renversement par l'armée du président Omar el-Béchir. Les discussions qui ont démarré hier soir se sont poursuivies toute la nuit jusqu'aux premières heures de lundi matin. Les leaders de la contestation veulent à tout prix qu'un civil dirige cette future institution clé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a lancé une sévère mise en garde à l'Iran qu'il a menacé de destruction en cas d'attaque contre les États-Unis ou leurs intérêts. Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Plus jamais de menaces à l'encontre des États-Unis, a-t-il écrit hier sur Twitter. Il y a seulement 3 jours, M. Trump avait semblé revenir sur sa position de faucon contre Téhéran en disant qu'il était prêt à parler aux Iraniens. Et quand un confrère lui avait demandé si ça allait être la guerre, il avait répondu « J'espère que non ». L'Iran a dit de son côté ne pas vouloir la guerre, mais la tension ne cesse de monter entre les États-Unis, leurs alliés régionaux et l'Iran. Dimanche, une roquette Katyusha est tombée dans la zone verte à Bagdad, non loin de l'ambassade des États-Unis. On ne signale ni dégâts ni victimes.
Bahreïn et les États-Unis vont organiser les 25 et 26 juin à Manama une conférence intitulée « De la paix à la prospérité » pour promouvoir de meilleures perspectives économiques pour les Palestiniens, si on peut parvenir à un accord de paix avec Israël. La Maison-Blanche s'est engagée à dévoiler dans les prochaines semaines un nouveau plan de paix au Moyen-Orient, préparé par Jared Kushner, le gendre du président Trump et un de ses conseillers. Les dirigeants palestiniens ont par avance rejeté ce plan qu'ils imaginent trop favorable à l'État hébreu et ils ont refusé tout contact avec l'administration Trump depuis la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël.
29 prisonniers, dont 24 membres de l'organisation État islamique et 3 gardiens, ont été tués dimanche dans une émeute dans une prison proche de la capitale, Douchanbé, ont annoncé lundi les autorités tadjiques. 24 membres de l'État islamique ont été tués. Les islamistes ont tué 3 gardiens, a déclaré le ministère de la Justice de ce pays d'Asie centrale dans un communiqué précisant que 5 autres détenus avaient été tués par les membres du groupe djihadiste. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Les autorités tanzaniennes ont infligé une amende de 2,4 millions de dollars à la société canadienne Acacia Mining pour avoir pollué l'environnement aux abords de sa mine North Mara Gold dans le nord du pays. Le ministère de l'Environnement reproche à Acacia Mining de laisser couler depuis des décennies des déchets toxiques dans les cours d'eau autour de la mine, mettant ainsi en danger la santé des habitants et de leur bétail. Le gouvernement tanzanien a aussi donné 3 semaines à la compagnie pour mettre définitivement fin au problème sous peine de sanctions plus sévères. En Zambie, le nouvel impôt destiné à remplacer la TVA entra en vigueur le 1er juillet. Le président Edgar Lungu a prévenu les entreprises qu'elles sont libres de quitter le pays, ce qui suscite une forte inquiétude dans le secteur minier. Les groupes Vendetta et Glencore s'y opposent vivement, mettant en garde contre un risque de suppression d'emplois dans les mines. Pour terminer, cette année, la Côte d'Ivoire prévoit de transformer 130 000 tonnes de noix de cajou, soit environ 18% de la récolte attendue cette saison, qui est de 730 000 tonnes. D'après Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, 4 nouvelles unités de transformation devraient être mises à l'essai durant cette campagne.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football féminin avec le tournoi UFOA-B à Abidjan, Côte d'Ivoire, remporté par le Nigeria.
Oui, les Nigérianes ont battu en finale les Ivoiriennes qui évoluaient pourtant à domicile. Un match très serré, un partout. Décision au tir au but. Une séance remportée 5-4 par le Nigeria. Le Ghana, champion en titre, complète le podium. Les Black Queens ont eu raison du Mali lors du match de classement.
Chez les hommes, la finale allée de la Coupe de la CAF a eu lieu hier au Maroc.
Et c'est la renaissance de Berkane qui est sortie vainqueur grâce à sa victoire 1-0 face aux Zamalek du Caire. But marqué en toute fin de match par le Togolais Fodo Laba. Une bonne option pour les Marocains en attendant le match retour dimanche prochain en Égypte.
Football toujours, la saison tire à sa fin en Afrique et au Burkina Faso. On connaît le nom du champion.
Il s'agit de Raimo FC qui a battu Rai Club de Kadiogo 2-1 lors de la dernière journée. Le club profite du nul 0-0 de Salitas devant l'USFA. Le point de cette 30e journée, riche en suspense, avec Salif Kabore, notre correspondant à Ouagadougou.
Monté en première division depuis la saison 2016-2017, Raimo FC est un club créé par l'ancien international burkinabé Raimo Ouédraogo. L'équipe, qui est aussi entraînée par l'autre étalon des années 2000, Bourema Zongo, a été fondée en 2004.
Depuis septembre, nous avons travaillé pour ça. Aujourd'hui, nous sommes champions. Bravo à tout le monde, supporters, aux dirigeants et aux joueurs. C'est pas facile pour des jeunes gens qui ont 18 ans, 16 ans, 17 ans aujourd'hui, qui sont champions du Burkina. Il faut le faire. Moi, je les félicite.
C'est un centre de formation qui allie sport et études. Et selon Traoré Ouédraogo, l'objectif, c'était de redonner au football burkinabé ce qu'il lui a offert.
C'est en cours de route, les enfants sont venus me voir un matin et ils m'ont dit que bon président, nous on va aller pour le titre. J'ai dit, vous êtes sûr? J'ai dit, parce que si vous vous engagez, il faut tenir parole. Ils disent, ils s'engagent. J'ai dit, bon, si c'est ça, on va le et Dieu merci, ils ont tenu parole.
Le sac de Raimo FC en championnat cette saison s'est fait dans le suspense car jusqu'à l'avant-dernière journée, Salitas tenait la tête du peloton. Sans déléguer en deuxième division la saison prochaine, l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso, créée par l'ancien international burkinabé Alain Sibori Traoré et Lusko de Banfora. Le championnat, cette saison a été surtout marqué par la faible participation du public dans les stades. Ouagadougou, Salif Kabore, VOA Afrique.
En Tunisie, on jouait la 22e journée de la Ligue 1.
L'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis se sont neutralisés à sous-score 0-0. Ce nul fait les affaires des Oranges et Noirs qui gardent 9 points d'avance sur leur adversaire du jour et sur le club sportif spacien qui s'est également contenté du nul blanc à Amlif. 29e journée au Maroc et le Wydad de Casablanca a été tenu en échec par Itiad de Tanger 2-2. C'est le 5e match sans victoire pour le WAC dans le championnat. Il reste tout de même maître de son destin. Le club de Casablanca aura besoin de 3 points lors des 2 prochaines journées pour remporter le titre. Au Bénin, les Buffles du Bogou, leader du championnat, renouent avec la victoire. Vainqueur 1-0 d'énergie de la SB2E lors de la 32e journée, le club de Parakou dévance de 4 points Béké de Bembereke, tenu en échec à domicile par Ezae et Ayema qui est allé battre Tonnet 2-1 à Boïcon.
Distinction à présent, prix Marc Vivien Foé, Nicolas Pepe succède à Karl Toko Ekambi.
Auteur de 21 buts et de 10 passes décisives. L'attaquant de Lille est logiquement sacré, instauré en 2009. Le prix Marc Vivien Foué récompense le joueur africain ayant réalisé la meilleure saison en Ligue 1 française. Et puis, du basketball pour finir, la suite des playoffs en NBA et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Toronto s'est relancé dans la finale de la conférence Est du championnat NBA avec une victoire à domicile après 2 prolongations face à Milwaukee, 118 à 112. Les Raptors ont ramené le score à 2-1 en faveur de Milwaukee. Toronto a fait la différence grâce à Kawhi Leonard qui a marqué 36 points. Et au Camerounais Pascal Siakam, 25 points, avant son exclusion après sa 6e faute personnelle durant le 4e carton.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opposant congolais Moïse Katumbi a confirmé son retour ce lundi 20 mai à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Son retour fait suite à la décision de la Cour de cassation d'annuler sa condamnation à 3 ans de prison. Pour rappel, début août dernier, sous le régime de Joseph Kabila, l'ancien gouverneur du Katanga, qui n'avait pas pu se présenter à la présidentielle du 30 décembre dernier, avait tenté en vain de rentrer au Congo par voie terrestre pour déposer sa candidature à l'élection. Désormais coordonnateur de la plateforme Lamuka, il se démarque de l'opposition dite radicale pratiquée par Martin Fayulu, qui continue de réclamer, je cite, « la vérité des urnes ». Pour en savoir plus sur son projet politique à son retour en RDC, Raissa Girondin a joint à Bruxelles, en Belgique, Moïse Katumbi.
Je suis coordonnateur de la plateforme politique de Lamuka parce que nous avons changé de la plateforme électorale à la plateforme politique. Nous avons un grand rôle à jouer. Nous allons représenter la population congolaise qui nous fait confiance. Nous allons défendre les antivaleurs. Nous serons là pour condamner là où il faut condamner. Nous allons applaudir là où il faut applaudir. Nous voulons avoir une opposition républicaine en République démocratique du Congo.
Mais quand on voit que Martin Fayulu continue à demander la vérité des urnes, quelle est concrètement votre position?
Mon candidat avant était Félix Tshisekedi jusqu'à Genève, jusque dans le bureau là où on était à la fondation Kofi Annan où j'avais fait même une motion. Je suis resté avec Martin Fayulu parce que le résultat est que Martin Fayulu était le candidat de l'opposition. Nous devons aller de l'avant. Nous ne voulons pas créer le chaos dans notre pays. Pour le moment, qu'est-ce que nous choisissons, nous, en tant que leaders? Nous choisissons la paix dans notre pays et surtout la démocratie et défendre strictement notre constitution.
Alors, une fois rentré, concrètement, quels sont vos projets et pourquoi votre retour est si important pour les Congolais?
Les Congolais savent ce que je fais pour le Congo. Mon bilan, surtout quand j'étais gouverneur de la province du Katanga. Ils ont vu le travail que je fais, ils ont vu le résultat, le bilan. Quand je rentre, c'est pour être avec le mien, consoler le mien qui ont vécu l'enfer. Vous savez ce combat de l'opposition. Mon frère Félix, mon frère Martin, mon frère Jean-Pierre Bemba, nous nous sommes battus pour qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution, pour ne pas avoir un troisième mandat. Donc le plus important pour nous, c'est l'avenir de notre pays.
On vous a rendu votre passeport congolais et vos problèmes judiciaires ne sont plus. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi a facilité les choses quant à votre retour au pays?
Vous savez, le passeport, d'abord, c'est un droit. Priver quelqu'un de son passeport, c'est un crime. Aujourd'hui, heureusement, il y a eu changement de régime. Il n'y a pas eu ingérence. À l'époque, le pouvoir de M. Kabila, il y a eu ingérence même dans la justice. Aujourd'hui, on peut dire le droit dans notre pays. Il y a des choses positives aujourd'hui. La liberté d'expression. Il y a des meetings à gauche, à droite de l'opposition. Mon frère Martin Fayulu est en train de sillonner le pays. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir une opposition constructive, voir l'avenir de notre pays. À l'époque, quand il y avait un meeting, on devait dénombrer d'abord combien de blessés, combien de morts et combien de gens étaient incarcérés après le meeting. Mais nous allons être une opposition républicaine ferme et nous allons féliciter là où il faudrait féliciter.
Joint à Bruxelles avant son retour, aujourd'hui à Lubumbashi en RDC, l'opposant Moïse Katumbi, coordonnateur de la plateforme Lamuka.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Célébration ce lundi de la fête nationale du Cameroun placée sous le signe de l'unité. Mais, nous dit notre correspondant sur place, certains Camerounais ne croient plus à l'unité de leur pays à cause, je cite, des pesanteurs sociopolitiques. C'est notamment le cas à Manga, situé à 227 km de Yaoundé, dans la région du Littoral, une ville francophone frontalière de la région anglophone du Sud-Ouest et où s'est rendu Emmanuel Juntap.
MRC.
Les militants du MRC, en Banga, préparent la cérémonie d'inauguration du siège de leur parti. Pas question pour eux de participer aux activités de la fête de l'unité. D'ailleurs, le mot d'ordre du MRC cette année est le boycott du défilé le 20 mai. François Xavier Yankoua, président communal du MRC en Banga.
Le défilé de 20 mai, la fête nationale, c'est une unité. Qui dit Cameroun oriental, Cameroun occidental? Quelle est la société que nous aurons pour fêter le 20 mai? Nous ne pouvons pas monter de ces carrés de 1850 morts.
La crise post-électorale a aussi créé une faille sur la question de l'unité nationale, explique un autre militant du MRC sous anonymat.
Je ne sais pas pourquoi je dois être concerné, puisque nos militants et notre leader, le professeur Maurice Kamto, est en prison de Kolingui depuis un certain temps. Si aujourd'hui nous acceptons que nous allons décider, c'est comme si peut-être nous cautionnons sa prison.
En Banga, la crise anglophone se fait beaucoup sentir. La ville a accueilli un grand nombre de ressortissants des régions anglophones. De nombreux déplacés internes sont venus s'installer ici, au quartier 3, en Banga. Roger est l'un d'eux. Il a quitté Bamenda, dans le nord-ouest, depuis un an. Il est conducteur de moto-taxi.
Depuis que je suis ici, je dois emprunter la moto à 2500 francs par jour chez des amis pour travailler. Mais je ne parviens même pas à trouver ces 2500. Avec cette crise anglophone, je ne sais pas quoi faire, parce que nous souffrons réellement ici.
Cette souffrance, des résidents de Banga la vivent au quotidien. C'est le cas des conducteurs de moto-taxi.
Depuis que cette crise anglophone a commencé là, que quand on n'arrive même plus à travailler, la nuit, on n'arrive plus à travailler parce que la police fait la patrouille de 21h jusqu'à l'aube. On arrête. Vraiment, il faudrait que le chef d'État essaie un peu de voir notre problème. Parce que ça ne va pas, vraiment. Nous sommes vraiment des responsables. Le DOJ, quand tu sors le matin pour rentrer avec 2000 francs à part, ce n'est pas facile.
C'est dans ce contexte que les autorités de la ville ne cessent de multiplier les messages de sensibilisation sur le vivre ensemble. Des messages qu'une frange de la population dit accepter.
Après l'arrivée de notre sous-préfet, un grand prôneur de l'unité de vivre ensemble. Banga, c'est un autre monde. Vous allez trouver les gens de tout horizon qui vivent en convivialité, dans la sympathie.
Malgré le problème de sécurité, tout se passe bien. Les autorités ont pris toutes les dispositions pour que chacun se sente comme chez soi.
La fête nationale a été instituée le 20 mai 1972 pour sceller l'unité et promouvoir le vivre ensemble. Deux notions qui sont aujourd'hui sujets à débat. 47 ans plus tard, Emmanuel Jumta, en Banga, pour VOA Afrique.
Polémique au Burkina Faso au sujet du déclassement annoncé d'une partie de la forêt de Koua à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du pays. La forêt en question est classée depuis 1936, mais la Chine veut y construire un hôpital de référence avec l'aval du gouvernement, une initiative à laquelle s'opposent les défenseurs de l'environnement. Cette forêt est devenue ces dernières semaines l'un des sujets les plus débattus sur les réseaux sociaux dans le pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Sur les 350 hectares que compte cette forêt, 16 vont être détruits pour construire un centre hospitalier universitaire. Le gouvernement n'avait jusque-là jamais eu une position claire sur le choix du site. Mais jeudi dernier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a laissé croire que c'est la Chine qui a imposé le choix de la forêt au détriment des autres sites proposés par le gouvernement.
Un des sites que nous avions proposé n'était pas loin de là où les Chinois ont décidé d'implanter l'hôpital, c'est-à-dire la forêt.
Christophe Dabiré.
Nous avions des engagements de la part de la République populaire de Chine de reboiser, puisqu'on leur donne 16 hectares. Les Chinois nous ont dit que si nous en sommes d'accord, même les arbres qui sont dans le site qu'ils ont choisi, ils vont les déterrer et aller les replanter dans la forêt classée. Devant un investissement de 35 milliards, qui est une subvention, avec à l'appui ces promesses de notre partenaire chinois, nous étions fondés à aller dans le sens de leur accorder cet espace-là.
Personne n'ignore l'importance de l'arbre dans un pays sahélien.
Moussa Zerbo, député, par ailleurs président de la commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques de l'Assemblée nationale.
Dans un pays désertique où le slogan est qu'on puisse vaille que vaille planter des arbres pour aider à stopper l'avancée du désert, on peut avoir notre forêt et avoir également notre hôpital. Pourquoi vaille que vaille détruire la forêt pour l'hôpital?
Même réaction au niveau des spécialistes de l'environnement.
L'hôpital, s'il
s'entête l'implanter les produits chimiques et autres injections qui se feront là. La nappe sera polluée.
Drissa Milogo, secrétaire général du syndicat de l'environnement.
C'est un bassin. Il faut noter bien que c'est la plus grande réserve d'eau dans l'Afrique occidentale après le Fouta Diallo. Elle peut alimenter tout le Burkina Faso, cette réserve, et même nos voisins. C'est dire que c'est ce qu'elles veulent outrepasser, intoxiquer donc cette population.
Déclasser une partie de quoi ? Et même suicidaire.
N'est-ce pas suicidaire de détruire le peu qui reste?
Colonel Léonard Zouré, ancien directeur général des eaux et forêts.
Depuis les indépendances, tout ce que le colon a fait, nous n'avons même pas ajouté, nous n'avons fait que laisser dégrader et maintenant on veut tout détruire.
Devant les députés jeudi, le premier ministre Christophe Dabiré, dont le gouvernement n'a toujours pas donné une position claire sur le choix du site, a tenté de rassurer.
Je prends la responsabilité de dire à la représentation nationale que nous allons réaliser le projet en faveur des populations de Bobo, sans penser que nous sommes en train de remettre en cause la protection de l'environnement.
La forêt de Kouah a été classée en avril 1936. Il y a 83 ans cette année, le sankariste Nestor Bassière, qui est le ministre de l'Environnement, a réaffirmé à deux reprises qu'il n'était pas question de déclasser cette forêt. Mais ces dernières semaines, il semble avoir mis de l'eau dans son vin, reconnaissant qu'on peut déclasser cette forêt si on suit les procédures. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Une question que l'on se pose au sujet du diabète et du jeûne au Sénégal et probablement dans d'autres pays musulmans. En ce mois de Ramadan, les personnes qui souffrent de cette maladie doivent-elles jeûner? La réponse des spécialistes est catégorique. Le jeûne doit ou peut occasionner, le jeûne peut occasionner de graves conséquences chez les diabétiques. Cependant, des dispositions peuvent être prises pour diminuer les risques. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Le diabétique doit se rendre régulièrement chez le médecin pour contrôler son état de santé, notamment son taux de sucre. Il doit redoubler de vigilance durant le mois de Ramadan, si possible quelques jours avant le démarrage du jeûne. Une recommandation du docteur Ibrahim Mohamed Diallo, diabétologue.
Quand le patient est traité sous insuline, normalement il ne doit pas jeûner, parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie qui est très 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 élevé. Quand le patient est sous ce que l'on appelle des ADO, des antidiabétiques oraux, le patient aussi peut jeûner, mais tout dépend du niveau de déséquilibre de son diabète. Et au cas où le malade a une hyperglycémie, il s'expose à un coma diabétique.
Le jeûne fait partie des cinq piliers de l'islam, ce qui pousse la majorité des musulmans à le faire. Cependant, un traitement particulier s'impose aux diabétiques.
C'est d'abord une bonne hydratation, donc il faut que le malade prenne beaucoup d'eau au moment de rompre le jeûne, mais aussi au moment de commencer le jeûne. La deuxième chose, c'est que le malade, s'il prend des médicaments antidiabétiques oraux, doit les prendre la plupart du temps le soir. Et le matin, les médicaments qu'il prenait le soir, il les amène pour la prise du matin. Mais la règle d'or, c'est vraiment prendre beaucoup d'eau.
Le médecin diabéto-endocrinologue au Centre hospitalier national universitaire de Fane suggère aux malades du diabète de suivre ses conseils pratiques. Ils permettent à ces derniers de rester en bonne santé durant la période du jeûne.
Un contrôle du taux de sucre au moins 3 fois par jour, notamment avant de commencer le jeûne, le matin de bonne heure, contrôler vers 13h et contrôler vers 17h. Et maintenant, en fonction du taux de sucre et de l'eau où on se trouve, si le malade en tout cas voit qu'il est en train de faire une hypoglycémie, il faut arrêter le jeûne. Et bien, s'il voit qu'il a un taux de sucre qui est supérieur à 2 grammes, il faut arrêter le jeûne.
D'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en 2018, le taux de prévalence du diabète est de 3,4%. Des chiffres à ne pas négliger si l'on sait que le diabète est une maladie chronique. Voilà pourquoi, durant la période du Ramadan, il est recommandé au sujet malade de respecter à la lettre les conseils des médecins. À Dakar, Sidina Abagay pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOAAfrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOAAfrique.